Bonjour à tous et à toutes. Juste un mot sur le titre. Prendre position, évidemment, c'est un jeu de mots. Prendre position, c'est défendre. Et aussi, une position, c'est une attitude préalable à une action. Et l'attitude, la position du corps, c'est le gros de ce que nous faisons directement ou indirectement en tant que mésiriste. Alors, même souci que ma collègue, comment ça marche? Voilà, yes. Reporter deux fois. Ce congrès se trouve, par un concours de circonstances assez étonnantes, le 18 septembre, journée du patrimoine. Bon, moi je considère un peu Mézières comme un monument. Donc je trouve que j'ai eu envie de vous faire visiter ce que j'ai reçu et ce que ça a laissé comme trace dans ma mémoire et dans ma profession de Mézières. 35 ans moi, de pratique, elle, 40 ans de réflexion et de recherche et de transmission après son observation princeps. Évidemment, ça ne tiendra pas en 20 minutes. Donc je vais vous faire un petit résumé. Beaucoup de gens, tous, vous connaissez très très bien ce monument. Donc je vais juste vous mettre en lumière quelques éléments qui m'ont semblé vraiment intéressants. Et notamment une idée qui me semble encore très importante, c'est que l'idée que l'originalité du travail de Mézières a été transmise, enfin n'est pas dissociable de l'originalité de la formation qu'elle nous a donnée, à nous les anciens. C'est-à-dire qui était une formation extrêmement peu académique. Tout était mis ensemble et ce qui pourrait peut-être paraître à l'heure actuelle et avec notre esprit actuel désorganisé, a vraiment une pertinence que j'ai vraiment envie de garder. Donc, Mézières, 1947, son observation princeps, elle voit que une syphose, une lordose, tout ça c'est lié, ça change radicalement et définitivement son point de vue. Elle ne peut plus regarder comme avant. Et en fait, elle n'aura eu de cesse de toute sa pratique, de nous transmettre cet ébranlement qui l'a mise hors d'état de regarder comme avant. Quand on a commencé avec elle, en fait, elle nous a mis d'emblée dans cette pensée, on va dire, globale, bien que ce n'était pas un mot qu'elle aimait. Parce que, bon, moi je me souviens dans nos études, on disait, dans les devoirs de synthèse, remettre dans la globalité. En fait, elle ne nous remettait pas dans la globalité tout simplement parce qu'elle ne nous en enlevait pas. On était dans la globalité. La première fois, moi je me souviens quand on a fait un bilan, bon, c'était pas là, ça c'était un peu quelques jours après. Ça m'a vraiment fait un choc. Évidemment, on avait énormément observé, ausculté, touché pendant nos études. Mais là, pour la première fois, parce qu'elle regardait comme ça, on voyait un corps, avec sa cohérence, avec sa structure, avec toute son intelligence. Et il y avait une manière de questionner comment est-ce que ça tient, qui était assez bouleversant. Je me souviens qu'elle disait, qu'elle nous a fait comprendre que le corps qu'on était en train d'observer était en train, actuellement, de se tenir comme ça activement. C'est-à-dire, ce n'était pas... si le bassin est légèrement penché, tourné, etc., c'est pas juste comme ça par habitude. Le corps, enfin, c'est aussi par habitude, mais le corps est en train activement, maintenant, pendant qu'on le regarde, d'entretenir ce schéma-là et de prendre appui sur ses compensations. Donc, c'est ça qui m'a vraiment, moi, fait un choc, c'est-à-dire, donc, s'il est en train maintenant d'entretenir ça, alors on peut changer quelque chose. Bon, c'est pas de la tarte, mais c'est pas un vestige d'une chose ancienne, c'est pas une séquelle, c'est en train de se jouer. Ce qu'elle nous a transmis aussi, et c'est aussi la raison pour laquelle son enseignement était si particulier, c'était une pensée de la forme. Et on peut pas décrire une forme par un bout. C'est-à-dire, si vous imaginez un carré, bon, le corps est bien plus complexe qu'un carré, mais vous ne pouvez pas décrire le carré par la forme d'un angle ou la forme d'un bord. Il faut avoir l'ensemble des données ou suffisamment de données pour voir la forme générale. La forme générale d'un corps, on ne peut pas s'en tenir à la forme d'une cheville ou la forme d'un genou ou de je ne sais quoi. C'est une forme dans son ensemble. Et c'est la pensée de la forme qui est quelque chose qui est extrêmement différent du langage. C'est une pensée qui est extrêmement complexe, aussi complexe que le langage, mais qui n'est pas du langage. C'est à ça qu'elle nous a, transmis. Et c'est pour ça que son enseignement était si particulier. Il ne suffisait pas de comprendre ou d'expliquer, il fallait concevoir qu'est-ce que c'est qu'une forme dans notre propre pensée. Voilà. Donc, on a tous fabriqué plus ou moins avec les mêmes choses, même os, même muscles, nécessité de tenir à l'aplomb, avec quelques variations particulières, voilà, les sacralisations lombaires, ou un bassin plus ou moins large, ou des tas de petites choses comme ça, paire de côtes surlombaires, etc. Mais en gros, on s'attend, voilà, à voir ça dans nos cabinets, parce qu'on est censé être organisé comme ça, voilà, comme un dieu, un demi-dieu, un athlète ou un parangon. Évidemment, on ne voit pas ça, on voit la précédente, on voit ça, quelqu'un. Donc au début, c'est réellement déboussolant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On voit ça, on pense ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ce qu'elle nous disait, c'était chercher, se poser des questions, ne pas s'en tenir à ce qu'on sait, se demander pourquoi. C'était extrêmement peu comme guide, en fait. Et le fait que ce soit extrêmement peu, ça a été la possibilité pour beaucoup d'entre nous d'aller extrêmement loin. Je disais que Mézières nous a enseigné un peu comme des artistes et un peu comme des artisans, avec une technique précise, comme on fait un bilan, comme on fait une mise en tension, une méthode extrêmement solide et toute la finesse d'un artiste, c'est-à-dire s'adapter, travailler avec sa main propre, travailler avec sa sensibilité propre, etc. Ce n'est plus propre aux Mézières à l'heure actuelle, mais en 85, c'était encore vraiment quelque chose très hors du commun. Et voilà, je voulais rendre hommage à cette avancée-là. Voilà. L'art de voir et de percevoir à la fois. Comment est-ce qu'on fait pour concevoir une forme? On voit, on perçoit, on sent, et il y a quelque chose dans notre tête qui se fait qui est une espèce d'image mentale. Moi, je sais que un peu chacun a sa façon de faire son bilan. Moi, je note extrêmement précisément ce que je vois en essayant d'avoir le moins d'a priori possible sur ce que je vois. Sachant qu'il y a des choses qui sautent à la vue, d'autres moins. J'essaye de ne pas mettre en avant ce qui me saute à la vue. Je note tout absolument, ce que je peux repérer des repères sur comment on fait, face, profil, dos, penché, quelques tests. Je laisse reposer ça, on discute, enfin on explique beaucoup de choses. Et quand je reprends le travail la semaine d'après, je regarde seulement le bilan et je me fais une image mentale de qu'est-ce que c'est qu'un corps qui a ces caractéristiques-là que j'ai notées, une hanche qui monte, une épaule qui avance, une tête qui incline. Je me fais une image exagérée. C'est-à-dire, je fais une caricature mentale de ce corps. C'est-à-dire, là, il tient, il fonctionne, il est debout. Je me fais une image jusqu'au bout. Et là, je vois mentalement, ou peut-être en l'imitant de l'intérieur, en le visitant, je vois là où c'est incohérent. Tiens, normalement, on monte là, je m'attendrais à ceci ou cela, et je vois autre chose. Et donc, je commence à questionner cette autre chose, et c'est souvent par là que je commence. Je pense que chacun d'entre nous a établi un propre process, parce que c'était extrêmement ouvert, sa manière d'enseigner. Bon, l'art du dialogue, c'est l'art de faire corps avec notre patient, enfin faire corps, travailler ensemble. Il faut savoir que la plupart des gens, quand ils arrivent, même s'ils ont déjà entendu parler du Mézières, ne savent absolument pas ce qu'on va leur demander. Et donc, il y a toute une éducation préalable, souvent au lâcher prise, à la perception fine, et à toutes sortes de choses qui ne sont pas spécifiques au Mézières, mais qui vont permettre cette coordination entre ce qu'on va leur demander et ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc, ce que tu disais tout à l'heure au niveau des réflexes, ça peut être un travail préalable ou ça peut être un travail qui se fait en même temps. En tout cas, il y a toute cette préparation au dialogue. Je ne reviens pas du tout dessus, on pourrait faire toute une conférence là-dessus. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de vous faire visiter du monument de Mézières aujourd'hui. Voilà. Ce que je voulais vous faire visiter, c'est ça. L'art est la manière de prendre son temps. Ça me semble du grand art. Et par les temps qui courent, ça me semble une chose qui est une valeur extrêmement importante à cultiver. Une mise en tension, c'est par définition forcément long et forcément plus long que ce que le patient voudrait. Si on travaille sur l'éducation, on va travailler sur la répétition, sur choses comme la reprogrammation. Nous, on ne travaille pas sur l'éducation, on travaille en deçà, à l'encontre de la programmation. Donc on va aller venir titiller le système à l'endroit où il n'a pas envie d'être titillé. Donc, a priori, c'est non. A priori, le système nous envoie bouler. Donc, on va forcément être obligé d'être un peu insistant. Tout notre travail, c'est comment on fait pour être suffisamment insistant sans déclencher des réactivités. Il y aura forcément de la réactivité. S'il n'y a pas de réactivité, c'est que le corps est en train de s'adapter. Donc, on crée une réactivité, mais pas au point où le corps va continuer à se défendre de plus en plus. Et donc, l'outil principal, c'est le temps. On prend du temps, on travaille sur le lâcher prise, et un moment où le corps n'en peut plus, et on continue. On calme. prendre le jeûne, on y va tranquille, on sécurise le patient et on continue. Il tremble, on continue. Il spasme, on continue. Et crampe, il devient fou, c'est jamais venu ça qu'on n'arrête pas sur une crampe, on continue. Et il y a un moment où quelque chose se modifie. Voilà. Ça prend du temps et il faut être dans un rapport de confiance absolument inébranlable pour que ça puisse se faire. C'est un vrai partenariat. Entre les séances, le corps doit intégrer le peu de choses qu'on a réussi à faire passer dans une séance. Donc, ça prend selon les patients, souvent 2-3 jours, la règle. Ce qu'on demande, vous le savez tous, c'est de ne pas en faire trop pour ne pas faire d'interférence. Pas profiter du mieux-être éventuel pour faire ses courses, son lavage, son sport. On attend que le corps est intégré avant de profiter des acquis. Ce sont, comme vous le savez, des traitements qui sont longs. On ne fait pas une modification de la structure en 5 séances. Mais ce qui est gagné, c'est acquis, on n'a pas besoin d'y revenir. Les gens qui reviennent, reviennent souvent pour autre chose ou pour une autre étape de quelque chose. Mais c'est long, on ne sait jamais exactement combien, ça va dépendre de ce qu'on va trouver. Et combien de temps ça va prendre, ben voilà, ça prendra le temps nécessaire. Après un traitement, on n'est pas toujours au mieux. C'est-à-dire que le process qu'on a mis en route continue à se mettre à avancer. Et le mieux du traitement est souvent après. Et on l'a des fois par hasard quand on croise des patients dans la rue, on a des nouvelles. Ou voilà, qu'est-ce qui se passe? Ben, le patient est venu parce qu'il avait une lombalgie, il avait oublié de nous dire qu'il avait aussi un problème à l'épaule. Et il se dit, bah, tiens, c'est bizarre. J'étais cet été en train de nager sur le dos, et ça faisait 10 minutes que je nageais sur le dos quand je me suis dit « Ah, mais en fait, je ne pouvais pas. » Voilà. C'est ça, le bénéfice secondaire, il est là. Il y en a toujours, il y en a aussi à plein d'autres niveaux, je n'interviens pas, mais quand un traitement est fini, l'évolution n'est pas finie. Qu'est-ce qu'une compensation ? Bon. Pour pas être perturbé, le corps obéit instinctivement à deux mots d'ordre qui sont « on continue de fonctionner » et « on a pas mal ». Il y a toujours plusieurs manières de se prendre pour un geste donné. Mettons, je veux tourner un bouton de porte, je peux pas faire de pronation. Je peux faire une adduction d'épaule et ça va faire bouger ma main. Bon, si c'est juste pendant quelques jours, ça n'a aucune importance. Mais on va finir par intégrer ça. Et voilà, c'est toujours une compensation, qu'elle soit simple ou qu'elle soit complexe, c'est toujours plus coûteuse qu'un mode sans compensation. Il y avait une pensée, j'ai vu des choses absolument... extraordinairement intéressante là sur la neurologie moderne. J'ai vraiment envie de plonger là-dedans. Moi, je suis quand même restée beaucoup à des anciennes bases. Mais il y a une pensée qui est un peu un joyau de la pensée de Mézières qu'elle appelait le réflexe antalgique a priori, qui était cette notion que une douleur, avant même d'être perçue, était court-circuitée par notre réflexe. Notre système de protection. C'est-à-dire qu'on n'a pas de souvenir d'avoir eu mal, on s'est déjà déplacé. Ça aurait pu être douloureux. Notre corps, la plupart du temps, s'organise. Il n'y a pas de traces mémorielles. Mais par contre, il y a des traces au niveau du positionnement. Et grâce à notre travail sur la forme, on va pouvoir remonter dans cette histoire-là. C'est absolument basique, mais ça reste 35 ans après encore absolument fantastique parce qu'on ne sait pas d'avance ce qu'on va trouver. Ni nous, ni notre patient. Bon, une compensation, on l'a compris, c'est fait pour faciliter la vie, du moins à court terme. Mais au bout d'un moment, ça amène toujours, plus ou moins, un patient dans un cabinet. L'art est la manière de travailler avec le neurovégétatif. Donc, très tôt, Mézières a eu l'intuition du neurovégétatif. Dans les postures, elle nous disait « Regardez, ça tremble, ça transpire. » Il y avait des signes comme ça. Et elle disait que c'était absolument indispensable. Il n'y avait pas encore tout le support théorique dessus. Et je crois que même à l'heure actuelle, on manque encore singulièrement de support pour vraiment penser exactement ce qui se passe. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on travaille en collaboration, en permanence, avec le système de survie. Le système de survie sympathique, parasympathique, donc le sympathique ergotropique, celui qui va vers le mouvement, celui qui va vers la pensée, vers la défense, celui qui augmente le tonus. Nous, on travaille sur le tonus. C'est quelque chose qui n'est pas commandé par la volonté. Et donc, il va falloir forcément dialoguer avec ce système qui n'est pas un système qui est accessible à l'apprentissage, mais qui s'apprivoise. Le système de survie, si on lui fait vraiment comprendre par l'expérience que la survie n'est pas en cause, si on lâche la tension d'un muscle quelque part, même si ça fait un peu de bazar dans l'homéostasie et qu'on a une petite transpiration ou quoi, c'est pas si dangereux que ça. Voilà. Donc, il y a vraiment tout un système d'apprentissage. Bon, je vous ai mis là les quelques petits schémas de l'endroit où se trouve le relais ganglionnaire de la chaîne sympathique. Pour des mésiéristes, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant. C'est face antérolatérale des vertèbres, donc en profondeur, derrière la chaîne antérieure du cou. Au niveau dorsal, sur la face antérieure des articulations costo-vertébrales, donc quand il y a des torsions au niveau des gibbosités, des scolioses, bon, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces ganglions? Au niveau lombaire, c'est derrière les arcades du psoas, c'est derrière le psoas, juste en dessous. On est extrêmement proche de structures avec lesquelles on est habitué de travailler très très régulièrement, je dirais en permanence à chacune de nos séances. On est en dialogue physique direct avec ces ganglions. J'ai pas d'autre chose à vous dire parce que je n'en sais pas plus, mais je pense qu'on n'a pas fini de trouver des choses quand on cherche à cet endroit-là. Voilà, je reviens juste vite fait. Il faut absolument, pour pouvoir modifier quelque chose au niveau du système neurovégétatif, d'être dans un climat de confiance. Et aussi, en contrepartie, comme ça s'occupe de l'homéostasie, ça cherche absolument la stabilité. Une fois que c'est intégré, c'est intégré. Donc, difficile à obtenir et stable dans le temps. On a beaucoup de méthodes absolument fascinantes, notamment le travail sur les réflexes, c'est médusant, comme c'est vite, comme c'est rapide, comme c'est pertinent. Mais est-ce que ça dure aussi longtemps qu'un travail sur la structure? Eh bien non, en fait. Le travail sur la structure, c'est extrêmement fiable. Et c'est ça, c'est une des choses qui est vraiment très très intéressant à persévérer dans ce travail avec Mézières. Donc l'art est la manière de libérer des tensions inutiles, voilà, c'est le cœur de notre travail. Mézières disait, les lourdeuses, ça se déplace comme une anneau sur une tringle. Pour résoudre une tension, il ne suffit pas de regarder où elle est. Évidemment, elle se déplace. Donc il va falloir travailler, comme on le sait, sur l'ensemble. Et puis voir les compensations. Pour revenir à la manière qu'avait Mézières de nous former, parce que c'était ça mon idée de base, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nous disait des choses très simples. Elle nous disait, quand on faisait des tests, par exemple, on tourne la tête, qu'est-ce qui se passe quand? Qu'est-ce qui se passe quand on tourne la tête? En fait, on n'a pas besoin d'apprendre ça dans les livres, même si on sait un peu qu'est-ce qui se passe pour le parangon, si le parangon tourne la tête. Mais mon patient, qu'est-ce qui se passe quand il tourne sa tête? Je regarde. Et il y en a un qui va lever l'épaule, l'autre qui va tourner le thorax, l'autre le bassin. On regarde. Et c'est ça qui va être notre guide. C'est pas l'idée qu'on s'en fait. On a évidemment toujours en arrière-tête le parangon, même quand on est dans des postures. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est, on le voit. Et ça va être l'observation avant, mais c'est surtout l'observation pendant. On va mettre, en fonction de ce qu'on observe et en fonction de ce qui nous semble le plus pertinent, on va travailler par des mises en tension qui sont des mises en tension actives. Qu'est-ce que ça veut dire, une mise en tension active? Ça veut dire qu'on va créer un conflit. On demande à un muscle de se contracter alors que on vient, par le positionnement dans lequel on le met, de mettre en position d'inhibition par étirement. Il ne peut plus se contracter et on lui demande de se contracter. Bon, il nous envoie paître, évidemment. Mais le patient, on a déjà sa confiance, donc le patient, lui, ne nous envoie pas forcément paître. Donc, on lui demande de commander son muscle exactement comme s'il pouvait. Il a le bras bloqué, il ne peut pas plier le coude. C'est pas grave, tu commandes exactement comme si tu peux, c'est-à-dire pas plus fort que si tu pouvais, mais pas moins fort non plus. Et petit à petit, bon bah si on bouge autre chose, non, c'est bien le bras que je te demande de plier, c'est pas la fesse que je te demande de lever, etc. On vient embêter le système nerveux à lui demander quelque chose qu'il ne peut pas faire et on reste là, dedans. Et qu'est-ce qui se passe ? Au fur et à mesure, on voit des choses qui se passent. Il y a un bassin qui tourne, on va travailler le bassin qui tourne. Il y a le pied qui s'agite, on va travailler. On va suivre au fur et à mesure. Mais ce qu'on va chercher, c'est le moment où le système neurovégétatif, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la survie, celui qui a les clés du problème, le problème étant complexe, il va pas nous donner toutes ses clés d'un coup. Hein. Mais de guerre lasse, si la guerre est bien menée et si on n'agresse pas, ok, d'accord, je ne peux absolument pas faire ce que tu me demandes parce que je suis bloquée. Mais si je lâche autre chose ailleurs, ça va pouvoir. Et c'est cette autre chose ailleurs qu'on ne peut pas trouver, que le système neurovégétatif va trouver, et qui est le Graal, le mot n'est pas tout à fait bien choisi, mais c'est la clé. Ça, on ne peut pas le trouver nous-mêmes. C'est le neurovégétatif qui va nous en faire cadeau. Donc, le au fur et à mesure, c'est vraiment une notion centrale dans notre travail. Et ce qui se passe, on le sait que quand ça lâche. C'est-à-dire, on ne peut pas le savoir par avance. C'est au moment où ça lâche qu'on sait que c'était ça. On peut avoir des idées, mais nos idées sont rarement pertinentes et on n'a absolument pas besoin de savoir d'avance. Par contre, au moment où ça lâche, on reconnaît que ah, c'était ça, c'était donc ça qui bloquait. C'était encore ça. Et il y a une autre chose que je voudrais insister, parce que c'est pas vraiment dans l'air du temps, sur le fait que ce soit au fur et à mesure qu'on voit ce qui se passe, Parce qu'on est dans une époque où il faut beaucoup dire par avance, de plus en plus, qu'est-ce qu'on va faire ? On fait un bilan, soi-disant, pour dire, je vais faire ceci, 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 cela. Mais en fait, c'est notre intention de faire ceci ou cela. Mais si ça se trouve, ça ne va pas donner d'effet. Donc, ce qui est important, c'est ce qui marche dans la réalité. Donc, on a des pistes, oui, elles sont pertinentes souvent, mais pas toujours. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas pertinentes qu'on n'est pas un bon mesuriste. On peut avoir des pistes très intéressantes qui ne donnent pas de fruits, on les laisse tomber, même si elles sont géniales. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de dialoguer avec un corps réel, en temps réel. Et ça, bah, c'est tout notre art. C'est pour ça que Mézières nous formait comme des artistes et pas comme des savants seulement. Bien qu'il y avait toute une manière de réflexion et de théorisation derrière qui est sans fin. Enfin, on n'a pas fini avec ça, disons. Voilà. Ce que je voulais aussi dire, c'est que ce qui amène un patient dans un cabinet, c'est pas une seule chose. Généralement, quand il y a un seul problème, on le contourne. Donc, ce qui amène au cabinet, c'est un problème complexe. Donc, il y a une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Enfin, souvent au moins deux ou trois. Et derrière chaque chose, il y a une logique. Et cette logique est propre à la personne. On n'a pas besoin de la connaître d'avance. C'est son histoire, c'est l'histoire de son corps, et c'est l'histoire du vécu de son corps, et du vécu de la personne, du contexte. Dans quel contexte elle a vécu ça, comment elle a vécu ça. C'est pas un corps dans l'absolu, c'est le corps de cette personne-là, avec laquelle on est en train de travailler.
Excuse-moi Nathalie, il te reste quelques minutes pour conclure.
Je vais conclure justement.
Merci beaucoup.
Alors, c'était justement ma page de conclusion, mais j'arrive pas à la tourner, toc. Ah, voilà, c'est ma dernière page. Je vous ai dit, pour terminer, en résumé, la normalisation de la morphologie, ce qui est notre travail, c'est à de rares exceptions près, pas une fin en soi. Travailler la forme, et un moyen d'aborder d'une façon relativement simple la complexité du corps et de collaborer avec lui pour débusquer et soigner ce qui le limite d'une façon cachée. Et merci aux organisateurs de m'avoir donné ce moment et cette liberté de parole.
Merci beaucoup Nathalie Picard pour ce témoignage. Voilà, je pense que on peut dorénavant donc se retrouver à partir de 15h précises, donc pour la reprise des conférences de l'après-midi. Vous avez dans vos pochettes une liste indicative, hein, il n'y a pas d'obligation, donc de quelques restaurants dans le quartier, mais encore une fois, vous avez l'embarras du choix. Le Marais